Alors cette petite introduction venue d'un album des Kinks, c'est Rosie Please Come Home et l'album s'appelle Face to Face. Mm-hmm. Donc et en face de moi j'ai Alain de Multiface, Multiface édition pour le coup.
Tu bonjour Alain. Français, ouais.
Ouais, tout à fait.
Salut Flavien, salut les auditeurs.
Ça va?
Ça va, bien bien.
Alors, tu inaugures la deuxième journée du festival.
Ouais.
Ça s'est bien passé la première?
Plutôt bien, ouais, on a pas des amplis.
Ouais.
Ouais.
T'es un auteur-éditeur local, c'est ça?
C'est ça, donc strasbourgeois.
Depuis combien de temps tu fais des jeux?
La société a été créée en 2014.
D'accord.
Évidemment, j'ai anticipé la création de la société, donc j'ai à peu près travaillé depuis 2013 sur le projet, quoi, des premiers jeux.
D'accord, et donc les premiers jeux, qu'est-ce qu'on peut trouver chez Multiface Edition?
Alors, on a du local, c'est-à-dire que le tout premier qu'on a fait paraître, c'est un jeu sur le patrimoine alsacien, donc c'est assez spécialisé.
Hein. Ouais.
C'est peut-être plus pour un public effectivement de gens qui s'intéressent à la région spécifiquement, donc qui est distribué plutôt en librairie.
D'accord.
Donc c'est un petit peu moins la sphère joueur, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant. Est-ce que tu as eu des inspirations pour faire ce premier produit? Parce que je pense que ça existe aussi peut-être dans d'autres régions et que c'est vrai que ça se dessine peut-être pas au niveau national, puisque à moins qu'il y ait des Bretons passionnés par l'Alsace qui veulent se le procurer.
Ouais. Non, en fait, ça n'existe pas ailleurs. Moi, ma spécificité, c'est-à-dire qu'avant de faire ce métier d'auteur-éditeur, j'ai été consultant justement dans le domaine du patrimoine alsacien, spécialiste de ce domaine-là pendant 15 ans. Voilà, donc j'avais un petit peu le bagage pour faire ça. Et aussi, c'est pas le premier jeu que j'ai créé. Hein, j'avais déjà notamment Minuit Meurtre en Mer, dont on va parler tout à l'heure, qui était déjà
dans
les cartons. Voilà. Par contre, je me suis dit que pour commencer, c'était pas mal. Parce que je peux aussi le distribuer moi-même, puisque je le distribue vraiment que dans la région.
Mm-hmm.
Parce qu'on va quand même assez dans le détail, et ça, je pense que ça ne parlerait pas assez à des gens d'autres régions. Quoi, voilà.
Et donc, tu n'as pas de distributeur pour ce jeu?
Alors voilà, Multiface Edition.
D'accord. Et donc, du coup, tu t'es promené en voiture un peu dans les boutiques librairies
Je me suis constitué un réseau, j'ai une cinquantaine de points de vente, et puis que j'entretiens régulièrement. Quoi,
voilà. Donc là, c'est Alsaludo, c'est ça?
C'est ça.
Et
donc, c'est une collection, il y a plusieurs volumes, déjà deux parus, un troisième en préparation, il y a à chaque fois deux thèmes majeurs, et puis ensuite on peut combiner les cartes des différents volumes, quoi, pour enrichir le.
Alors c'est vrai que c'est pas un truc qui va parler trop aux joueurs, par contre, aux joueurs qui vont écouter Proxy Jeux, par contre au niveau du public justement, est-ce que ça touche un public assez large? Parce que justement le grand public, les jeux de questions comme ça, de connaissances, pour faire court, c'est quelque chose qui peut toucher un public qui va pas forcément écouter du podcast, aller sur TikTok et compagnie, mais justement un public peut-être plus large. Est-ce que tu as des retours là-dessus?
Oui, donc j'ai pas mal en fait je fais pas mal de com dans la presse locale, et donc effectivement, donc ça touche à la fois un peu.
La presse locale, tu parles par exemple les DNA, ce genre de
voilà,
choses.
Donc presse écrite, télé, radio, tout ça.
Qui touche un public dans l'absolu plus large que TrickTrack par exemple, au niveau du nombre de vues.
Voilà, on va dire une espèce de, un peu grand public si tu veux, effectivement. Donc ça touche pas mal un public à la fois familial, puisque c'est un jeu qu'on peut vraiment pratiquer aussi bien seul, à 2 qu'à 15 ou 20 si on veut, puisque au-delà de 3 on se met en équipe. Donc ça a vraiment un côté très convivial, un peu la rivalité entre équipes. Comme ça. Et puis après il y a un côté pédagogique aussi, donc j'ai pas mal d'enseignants par exemple qui en prennent, des gens par exemple, des animateurs,
des enseignants du coin, quoi.
Oui,
c'est
bien
plutôt
sûr,
de élémentaire ou aussi jusqu'au collège?
Non, c'est plutôt
secondaire.
C'est à partir de 14 ans. Hein. C'est
quand
c'est quand même assez
soutenu. Pointu.
La spécificité, c'est pas en fait, c'est pas un quiz question-réponse. C'est que moi j'appelle ça des énigmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de textes pour aider les gens à trouver d'une part, mais aussi on apprend plein de trucs avec le jeu, y compris des choses qui servent à répondre à d'autres énigmes en fait au fur et à mesure.
D'accord, parce que c'est vrai que les jeux de connaissances, c'est un peu, si on fait court résumé à Trivial Poursuite, qui a pas forcément très bonne presse auprès des joueurs et qui est un peu chiant.
Ouais.
Là, comment tu fais justement pour faire? Alors il y a des jeux de connaissances qu'on redynamisait le truc. Il y a, comment ça s'appelait, Gambit 7 à l'époque, où c'était l'estimation qui a été, je sais plus, il a été réédité sous un autre nom, je sais plus le nom. Il y a I Know aussi qui était intéressant de ce point de vue-là. Comment est-ce que dans Alsaludo, justement, c'est pédagogique sans être chiant?
Voilà, c'est du pédagogique ludique, donc ça passe beaucoup mieux. Ensuite, il y a ce côté, effectivement, émulsion par le fait de jouer en équipe. Il y a aussi, ça peut se passer en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un texte d'énigme. On constitue des équipes au départ. Chaque équipe, à son tour, de gauche à droite, va être poseur d'énigme. Donc, pioche une carte, donne deux indications, catégorie et thème, et puis ensuite lit le texte d'énigme. Ensuite, c'est l'équipe à gauche qui peut proposer une réponse, donc ils se concertent, mais ils ont droit qu'à une réponse. S'ils ont la bonne réponse, ils collectent la carte. S'ils n'ont pas la bonne réponse, c'est les suivants qui peuvent répondre.
Et quand tu dis énigme, c'est une question avec un point d'interrogation ou c'est plutôt...
Alors, ça peut arriver effectivement. Ouais. Alors des fois, il y a un petit texte explicatif vraiment qui situe les choses. Il y a une question en gras à la fin, ou bien on te demande par exemple de trouver un personnage, donc il y a une description, tout ça. Voilà, donc on tourne de gauche à droite comme ça jusqu'à ce qu'une équipe trouve. Donc ce qui fait tout le monde suit, tout le monde peut répondre,
etc. Ouais,
et puis si personne n'a trouvé, on a un coup de pouce avec trois choix de réponse. La réponse est parmi les trois. Okay. Si on trouve avec le coup de pouce, on n'a qu'un point. Sinon, c'est deux points. Première équipe qui a 10-11 points remporte la partie. Les règles sont vraiment très accessibles pour qu'on puisse vraiment jouer presque tout de suite. Les sujets sont très très variés. J'essaie vraiment d'aller partout, dans les petites vallées, partout, etc., pour que ça parle un peu à tout le monde, mais aussi qu'on découvre un petit peu plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Voilà, donc c'est un bon vecteur aussi. Par exemple, je l'ai abordé tout à l'heure, dans le milieu pédagogique, j'ai pas mal d'enseignants, par exemple, les filières langue et culture régionale, par exemple, donc qui essayent de promouvoir un petit peu, de valoriser à la fois.
Est-ce que tu as des gens du circuit, entre guillemets, des enseignants du circuit traditionnel, c'est-à-dire des profs de lycée, voire de collège, en histoire, en géo, par exemple, qui vont venir essayer de faire découvrir le patrimoine alsacien, par exemple, à des élèves, mais disons dans...
Après, c'est peut-être pas dans leur programme, donc tu sais bien qu'ils sont toujours un petit peu short avec leur programme.
Bon, déjà, je suis prof, pour le coup, dans le primaire, et il y a toujours moyen de calmer quelque chose.
À ma connaissance, j'en ai pas d'affiché, en tout cas, après, je sais pas qui m'ont prend toujours exactement, mais voilà. Et sinon, il y a mais aussi par exemple dans les tout ce qui est les maisons de retraite, des choses comme ça, enfin des animateurs, ou des centres aérés, des choses comme ça. Bon, après, c'est plus un public adulte quand même, mais le fait de jouer en équipe, on peut vraiment associer à la fois les aînés, des plus jeunes. Ça peut être assez familial et regrouper un petit peu vraiment différentes générations, donc c'est un petit peu ce que je recherche aussi.
D'accord,
avec
donc tu disais que tu allais en Alsace pour faire la promotion du jeu sur le terrain. Là, des Bretzel et des jeux, on est aussi sur le terrain. Tu y étais pas, je crois, il y a 2 ans?
J'étais en visiteur, mais...
T'étais en visiteur, c'était encore en...
Voilà, et puis il y avait deux fois moins de place, etc. Donc c'était un petit peu short. Finalement.
D'accord, et donc le travail de terrain, est-ce que c'est vraiment important pour implanter un jeu comme ça au niveau local? C'est vrai que là, par exemple, les éditeurs qu'on a, des Bretzel et des jeux, ils sont au niveau national, ils vont aller à Cannes, ils vont aller à Paris Ludique, ils vont aller à des Bretzel et des jeux, ils vont aller à Ludinor, etc. Ils vont oublier peut-être, enfin, oublier sciemment, c'est-à-dire ils vont pas aller sur des plus petits événements parce que c'est pas rentable. Toi, justement, ton travail de terrain, en quoi il se différencie de ces éditeurs nationaux?
Bon, il y a plusieurs aspects. Hein. Déjà, alors là, ça fait trois ans maintenant.
T'es salarié par multi...
Enfin, non, moi, je suis gérant, en fait.
T'es employé. Enfin, tu te payes un salaire quand même.
C'est un peu short pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, c'est encore short. D'accord.
C'est un petit peu short. Donc, en fait,
mais c'est ton métier, par contre.
Voilà, c'est mon métier. Okay. Ce qu'on peut gagner, effectivement, sur nos jeux, en fait, c'est un peu la loi pour tout le monde, c'est que tu réinvestis dans les jeux suivants. Quoi.
Bien sûr,
un petit peu un cercle sans fin, un puits sans fond presque. Ce qui fait que c'est aussi un peu un investissement, tu vois, en termes de temps, en termes de travail. Et puis, au fur et à mesure, j'ai une dizaine de jeux en développement. Donc, au fur et à mesure, je vais étoffer mon catalogue. Et puis, au bout d'un moment, ça roulera un petit peu plus, avec un peu plus d'huile dans les rouages, on va dire.
Répondre
à ta question, sur le travail de terrain, en fait, là, comme j'ai un jeu vraiment spécifiquement local, forcément, c'était un peu mon aire de jeu aussi, pour pas rester dans le vocable du jeu. Donc, bien obligé déjà, si tu veux. Ensuite, moyen de com aussi, moyen tout court limité. Donc, je peux pas forcément d'emblée courir.
Tu l'as dit, Alza Ludo va pas forcément. Voilà, celui-là était après de Minuit Meurtre en Mer.
Celui-là était spécifiquement local. Donc, là, effectivement, c'était un peu un passage obligé. Donc, j'ai fait pas mal de salons du livre, tu vois, ce genre de manifestations aussi. Plus, on est un peu plus entre le livre et le jeu avec ce jeu-là. Quoi.
D'accord, ok. Et donc Minuit Meurtre en Mer, qui est le jeu suivant, qui là n'est pas local pour le coup, à moins que ce soit Minuit Meurtre en Mer en Alsace.
C'est pas Minuit Meurtre sur le Rhin, la mer en Alsace.
Et donc là, c'est vraiment un changement d'échelle au niveau de la production peut-être déjà.
Bien sûr.
Et donc comment ça, ce projet, il est en gestation depuis plus longtemps qu'Alza Ludo?
Oui. Là, c'est un projet qui date de 2010. Donc le jeu est vraiment en développement depuis tout ce temps-là en fait, mais en parallèle d'autres jeux dont Alza Ludo, mais aussi d'autres jeux. Comme je te disais, j'ai une dizaine de jeux en fait en préparation. Dont celui-là. Quoi. Et puis, donc ça a permis vraiment de le tester. J'ai un cercle de 15 testeurs en interne pendant un bon moment, d'épurer au maximum les règles. Et puis, en même temps, de faire des petites corrections, etc. À droite à gauche pour te dire qu'on des remarques. Et ensuite, j'ai commencé évidemment, comme tous les jeux, à le montrer un peu en public à droite à gauche. D'abord dans des cercles plus restreints, puis ensuite à communiquer un petit peu plus largement. On était l'an passé à Parthenay. Première grosse sortie de Minuit Meurtre en Mer national, on va dire.
C'était la première fois que tu faisais un festival aussi gros de jeux de société.
Et puis, après, on avait fait Happy Games, des choses comme ça, vois, donc à Mulhouse, à Mulhouse, ou d'autres petits festivals comme
Épinal, peut-être aussi.
Alors, pas encore, on l'a fait cette année.
Ouais, c'est pas l'année dernière,
pas 2016. Quoi. C'est ça.
Okay.
Et puis, on est passé par Trick Track, Orléans, etc. D'accord. C'était sur la route. Donc, commencé à communiquer à peu près depuis un peu plus d'un an vraiment vers le grand public.
Et là, le développement mécanique de ce jeu, il était fini quand ?
Alors en fait, je peux te dire qu'il est quasiment jamais fini jusqu'à ce que tu décides de lancer la fabrication. D'accord. Puisqu'en fait, tu as toujours des retours de gens vraiment jusqu'au dernier moment. Quoi. Mm-hmm. Je veux dire, même là encore, tu as toujours des retours de gens. Alors, il y a à boire et à manger, évidemment. Il y a des choses peut-être, entre guillemets, pertinentes, d'autres qui le sont moins. Les gens n'ont pas toujours tous les aspects en tête, notamment les aspects
de production, de choses comme ça.
Oui, ou même en termes mécaniques de jeu, etc. Ils ne voient pas toujours les tenants, les aboutissants
des idées. Rester maître de sa création quand même à un moment.
Oui, d'accord. Après, mais effectivement, il y a toujours des remarques que tu peux effectivement intégrer, des tout petits ajustements que tu peux encore faire suite à l'observation, quoi. C'est sans fin. Donc, je suis vraiment toujours très intéressé par le retour des gens jusqu'à ce que vraiment on n'ait plus le choix, qu'on lance la prod.
Ouais, quoi.
Je me rappelle qu'on a même modifié encore des fichiers au dernier moment avant de les passer aux fabricants, puisqu'il y avait encore des tout petits changements. Finalement, on se dit, ah oui, tiens, c'est peut-être quand même mieux de faire comme ça. Ou bien ce petit truc-là, ce petit mot-là, peut-être on peut peut-être quand même le changer pour que ça soit pour qu'on comprenne mieux. Peut-être qu'on ne comprenait pas assez. Ouais, enfin, ce genre de truc, tu vois, j'ai pas d'exemple précis en tête.
Tu parles de mots, c'est vrai que là, on n'est plus du tout dans le jeu de connaissances et de culture. Général, alors c'est vraiment ouf, tu m'as dit on est dans un jeu d'enquête mais complètement différent du Cluedo. Alors c'est vrai que moi c'est pas la référence qui me serait venue, c'est plutôt en jeu d'enquête. On a Sherlock Holmes Détective Conseil qui est un grand jeu d'enquête.
Ça part plus au jour.
Voilà, c'est ça. C'est éventuellement
Tim Story qui peut.
Donc, tu te situes plutôt dans cette veine-là.
Voilà, c'est plutôt cette famille, on va dire.
Le côté un peu sérieux.
C'est plutôt cette famille-là de jeux. On peut citer aussi Orient Express, pour les vieux de la vieille, c'est un jeu plus ancien. C'est peut-être d'ailleurs celui dont ça se rapproche un petit peu le plus, avec Watson et Holmes. Alors, Sherlock Holmes, on est un peu plus loin quand même. Donc, c'est en fait un jeu qui fonctionne. Donc, c'est un jeu d'enquête scénarisé, c'est-à-dire qu'on fonctionne vraiment avec des histoires élaborées. Et le plaisir et le but un peu de la partie, c'est vraiment d'essayer de découvrir et de comprendre ces histoires. D'accord. Sachant qu'effectivement on accède au fur et à mesure à ce que j'appelle des pistes. Donc c'est un peu des bribes de ces histoires et on essaye de trouver, là c'est plus classique, qui a fait le coup, pourquoi et comment, donc le coupable, le mobile et le mode opératoire. Et donc ça se passe toujours sur un navire de croisière, toujours un décès suspect qui a eu lieu dans la suite de luxe. C'est l'occupant de la suite de luxe trouver son vie. Les joueurs sont des détectives privés qui étaient en congrès, manque de peau pour le responsable, qui étaient en congrès à bord et qui apprennent ça au petit matin et qui décident donc d'être finalement de faire un peu le pari d'être le plus fin limier à bord. Donc c'est un jeu compétitif. Donc déjà, d'accord, c'est une différence avec Sherlock.
Voilà, c'est pour ça que tu le rapprochais peut-être plus de Watson et Holmes qui est aussi compétitif.
Et
alors, c'est un jeu, il y a plusieurs scénarios ou bien c'est modulable ? Parce que tu dis, la situation initiale, c'est ça, avec le meurtre dans la suite. Et comment ça se passe au niveau des scénarios ?
Non, il y a vraiment des histoires à chaque fois complètement différentes. Hein, donc, il y a 20 enquêtes dans la boîte de base. Hein, j'ose déjà dire de base qui peut s'entendre.
Ouais, parce que tu as peut-être d'autres
choses par la suite éventuellement. Ouais. Mais de base, déjà, il y a 20 enquêtes. Alors, évidemment, les gens sont toujours intéressés par la rejouabilité aussi. Donc,
je crois que ça évolue depuis quelques années avec Time Stories, avec les formats Lego.
Mais les gens demandent quand même beaucoup. Alors, même qu'il y a 20, tu vois, je leur dis, il y avait enquête, déjà tu te dis bon déjà c'est pas évident, voilà, tout le monde fasse
c'est, les 20. C'est des enquêtes de combien de temps à peu près?
Une heure à une heure et demie
ouais,
à peu
d'accord,
près
ouais, d'accord.
Ça peut aller jusqu'à 2 heures, ça peut aussi être un tout petit moins qu'une heure, c'est assez variable, ça dépend aussi évidemment du temps que mettent les gens à jouer, ça dépend si c'est la première partie.
T'as déjà un prix auquel tu veux le mettre?
Oui, donc le prix public il sera de 44€.
44€, ouais, d'accord.
Okay. Là on sera distribué par Novalis.
D'accord.
Et puis après...
Donc là t'as trouvé un distributeur?
Oui, j'ai trouvé bien sûr...
Pourquoi Novalis? Alors Novalis, rappelons rapidement, parce que c'est pas si ancien que ça, ça va être la branche d'Asmodée qui va s'occuper par exemple de Pearl Games.
Tu peux parler au présent déjà, parce qu'ils
s'en occupent déjà. Ouais. Voilà, c'est entre guillemets la branche gamer, l'ancien, si on veut comparer avec Marabunta qui est décédé, on va espérer que Novalis subsiste plus que Marabunta. Mais Marabunta avait aussi du développement, donc là, pourquoi Novalis du coup?
Pour différentes raisons. Déjà, j'ai sollicité plusieurs distributeurs, j'ai pas toujours eu des réponses de tout le monde, même malgré les relances, je veux dire.
Des fois, tu relances.
On va vous appeler, on va vous. Et puis ça se fait pas, ils sont même pas au courant du jeu, tu vois. Je vais pas citer, bien sûr. Après, j'avais un contact très très sympa avec BlackRock. Pendant un bon moment, je pensais qu'on le ferait, qu'on bosserait ensemble. Et puis, donc ils ont testé le jeu, etc. Ils ont beaucoup hésité, puis finalement ils m'ont dit que c'était pas tout à fait leur envie de faire ce jeu-là.
Il y a un gros réseau de boutiques du fait.
Voilà. Après, effectivement, donc j'avais deux vraiment après encore. Il est resté deux distributeurs qui étaient vraiment intéressés, Novalis et puis un autre. Novalis proposait effectivement des conditions assez intéressante. Bon, le seul truc, c'est qu'en fait, ils font pas du tout de promo. Ce qui, moi, petit éditeur, c'est pas forcément. Tu vois, tu réfléchis aussi parce que finalement, bon, bah, c'est encore l'éditeur qui met pas mal de moyens de com aussi pour vraiment promouvoir le jeu, quoi. Après, très très bon contact et puis bon, de bonnes perspectives. Après, ils ont toute la machine à se moder derrière aussi. Il faut quand même le dire. Donc, ils sont rodés. Je pense qu'on peut leur faire confiance sur la qualité de boulot, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant.
Donc chez Novalis, et ça devrait arriver à quel moment?
Donc effectivement, on a fait aussi une campagne de financement participatif compléter le financement. Donc il y a aussi des boutiques complètes G déjà. Donc,
d'accord, il y avait un plateau de boutique. C'était un financement par quelle plateforme Ulule ou Kickstarter du coup? Alors est-ce que c'est un jeu d'enquête? Déjà peut-être au niveau des inspirations? Au niveau de l'écriture, c'est toi qui as écrit les scénarios? Et alors, tu t'inspires de qui comme auteur?
D'auteurs.
Ouais, d'auteurs littéraires.
Je peux citer personne. En fait, je m'inspire de mon inspiration, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que il y a beaucoup de clins d'œil aussi. Il y a des choses de réel, tu vois. Des fois, ça peut être un élément d'actualité, hop, que je détourne et je déroule la pelote de laine. D'accord. Et puis voilà, non, je suis quelqu'un d'assez créatif, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette activité-là, puisque en fait, c'est le propre de Multiface Edition, c'est vraiment d'éditer nos propres créations, notamment les miennes, pour rester modeste. Effectivement, je me suis lancé parce que j'avais déjà ce jeu-là qui était mon jeu phare en prévision, et puis ensuite, parce que j'avais aussi beaucoup d'autres jeux derrière qui arrivent très très diversifiés à chaque fois, hein, des thèmes et des types de jeux très très différents. Bon, pas jeu enfant, plutôt effectivement plutôt adulte, mais globalement plutôt joueur. Ça peut toucher un peu de joueurs de familial aussi.
Et donc au niveau du matériel, là, je pense qu'on va être. Tu pars sur quoi? Sur des livrets, sur des feuillets?
Ouais, il y a un petit peu tout. Il y a des feuillets de prise de notes. Il y a des livrets d'enquête. Alors j'ai scindé les 20 enquêtes en deux livrets pour que effectivement ce soit plus pratique à manipuler. On l'a évoqué donc sur la campagne de financement participatif. Il y avait aussi 3 enquêtes inédites dans un petit livret bonus pour les pledgers. Après, il y a un plateau. Il y a des pions. Qui représente les détectives.
D'accord,
d'une part,
mais donc on est plus. C'est au niveau de la production, c'est assez différent d'Alza Ludo. T'es passé par d'autres.
Alza Ludo, c'est de la carte.
Hein. Ouais, c'est ça.
Donc on a une carte, on a 160 cartes, on a une règle de jeu et on a la boîte. Donc
du coup, t'es parti sur d'autres producteurs.
Fabricants, tu veux dire.
Ouais, fabricants.
Tout à fait, bien sûr. Enfin, bon, non, j'ai sollicité les mêmes, puisque Alza Ludo, c'est un pro aussi du jeu de société, hein, qui est allemand, je pense que les gens situeront à peu près.
C'est qui? C'est Ludo.
Alza Ludo. Pardon, Ludofact, oh là là. Ludofact, c'est vrai que le nom ressemble. Ludofact. Et puis, donc évidemment, je les ai approchés aussi pour Minimum Trombert. J'ai fait des devis à différents fabricants. Et finalement, on a choisi un fabricant polonais, donc on voulait de préférence rester en Europe. Et puis,
La Pologne, c'est en Europe, c'est bon.
Oui, voilà, ça c'est fait. Et alors, donc nouveau fabricant aussi, donc bon, mais ça se passerait bien pour l'instant.
Et tu parlais donc effectivement de la campagne participative, de la campagne de financement participatif même. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a un changement d'échelle, là tu ne vises plus le public alsacien, alors tu vises aussi le public alsacien, mais pas que.
Ouais.
Du coup, le Kickstarter, ou le financement participatif de manière générale est plus. Enfin, plus pertinent que si ça avait visé juste un public alsacien. T'as eu des. Au niveau de la communication, comment tu fais justement quand tu es un nouvel éditeur comme ça, que le public alsacien va peut-être connaître pour Ludo, Alza Ludo, mais pas.
Bon, il y a plein d'aspects en fait. Il y a l'aspect, le fait que je ne sois pas un éditeur connu, justement, puisque je ne me suis pas fait connaître dans le milieu du jeu avec Alza Ludo, parce que j'estimais vraiment que ce n'était pas la sphère. Ça n'avait pas vraiment de sens. Donc j'ai attendu un petit peu mon heure, comme on dit, pour faire connaître l'éditeur. Donc il y avait quand même une certaine difficulté, effectivement, à réussir une campagne de financement participatif en un mois chrono, hein, puisqu'on avait un mois, en n'étant pas connu.
C'était quoi,
avec un jeu pas connu.
Le palier visé, c'était combien?
Alors, en fait, il y a plusieurs variables, si tu veux. Il y a le fait que, pour compléter mon financement, ce qui me restait à financer, c'était les coûts de fabrication.
Hein,
donc, j'avais déjà financé la conception, l'illustration, graphisme, etc. D'accord, en fait, les fichiers, au moment où j'ai lancé la campagne de financement, les fichiers étaient prêts à partir chez le fabricant. On avait déjà tous les deux choisi le fabricant, on avait le distributeur, on était vraiment prêts à produire. Tout ce qui nous manquait, c'était le complément de financement, qui était pour une production que moi je qualifie de petite, bon, certains me diront c'est déjà une production moyenne,
c'est combien,
de 3000 à 4000 boîtes.
D'accord, ouais.
Donc je visais 3000 à 4000 boîtes pour une première édition.
Pour un jeu qui joue, enfin sur un jeu d'enquête, pour une première pour un premier jet, en tout cas, ouais, si, c'est une production qui est tout à fait raisonnable. Quoi. Ouais. Enfin, c'est bien.
Ouais.
C'est
beaucoup. Bah, disons que le jeu, quand même, sur un créneau un petit peu particulier, il est assez original.
Ouais, il y en a quelques-uns.
Ils sont tous. Celui-là se distingue aussi pas mal de ceux qui existent. Hein. C'est vraiment pas ressemblant du Time Story, du Sherlock Holmes, même de l'Orient Express ou du Watson et Holmes. C'est quand même encore. Un autre jeu, d'accord. Voilà. Donc, il a quand même pour lui son originalité, tu vois. C'est un peu pour ça que j'ai lancé celui-là aussi en premier. Après, effectivement, donc pour nos coûts de financement, il nous restait en gros quand même dans les 35 000 euros à trouver. Ouais. Et je me suis dit, en un mois, je vais pas y arriver, n'étant pas connu, n'ayant qu'un jeu en français à proposer sur un Kickstarter. Donc les anglophones, ils zappent. J'ai très peu
t'as
de.
T'as eu quelques backers de...
Ouais, j'en ai quelques-uns quand même. Ça fait plaisir. Il y en a même qui me disent bon, on parle pas français, mais voilà, on est intéressé.
Ouais,
voilà. Donc je me suis dit je vais fixer un plafond plus bas parce que tu connais le principe du Kickstarter, c'est tout ou rien. Ouais, donc si j'avais pas atteint mon plafond, j'avais zéro et toute l'OP était ratée.
Ouais, et puis il y a plein de facteurs psychologiques qui fait que si tu mets moins, du coup, ça, il y a un engouement et éventuellement ça peut ramener d'autres personnes, etc. Enfin, il y a plein de choses.
Peut-être.
Ouais. Et donc,
j'ai fixé un plafond à 18 000 euros. Donc, c'était quand même assez osé, c'est-à-dire qu'il manquait encore la moitié. Quoi.
Ouais, d'accord.
Et donc, on a effectivement. On a fait comme tous les Kickstarter, on a proposé au fur et à mesure des paliers supplémentaires où on rajoutait des enquêtes, puisqu'on partait avec 16 enquêtes dans la boîte, par
d'accord,
exemple.
Et
je me suis dit vraiment, ce qui intéressait les gens, c'était bon, le prix, on a fait vraiment le prix le plus bas possible, Fred XP inclus.
Leur jouabilité,
l'intérêt, c'était vraiment les c'est vraiment les enquêtes, donc on voulait pas rajouter des gadgets spécialement, tu vois, donc on proposait des enquêtes supplémentaires, voilà. Donc on a fini avec 20 enquêtes dans la boîte et on a fait 160% plus de 500 contributeurs, quoi.
D'accord.
Qui effectivement a étonné même des gens qui ont l'habitude des...
Ce qui t'a peut-être pas amené à 35 000 euros, mais
non,
qui...
ça m'a amené à 25 000 à peu près,
parce que
la plateforme et son partenaire prennent 8 à 10% quasiment quand même, hein, donc c'est pas négligeable. Et ensuite, j'ai mon distributeur aussi qui me fait du préachat sur 500 boîtes. Donc là aussi, tu vois, c'est des échanges de bons procédés qui permettent de forger des relations
à long terme, éventuellement.
Voilà, à long terme. Et tu as une relation de confiance qui s'installe aussi avec ce genre de choses. Eux, ils me font confiance. Moi, je peux me reposer sur eux aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, j'ai réussi à compléter ce financement, ce qui n'était pas évident au départ.
Ah, bien sûr, vraiment. Et donc là, le jeu arrivera...
Donc sur 3000 boîtes finalement pour l'instant, une première édition, 3000 boîtes, en espérant évidemment que ça fonctionne suffisamment au fur et à mesure et qu'on puisse rééditer. On a des projets d'extension évidemment aussi, si le jeu fonctionne suffisamment. Et puis ensuite, peut-être de localisation dans d'autres langues. Là, j'ai déjà un contact par exemple pour peut-être avec un éditeur italien. A priori, je pense peut-être le traduire en anglais, quoi. Après, ça va dépendre de la demande aussi. Bon, la difficulté pour ce jeu-là de localisation est qu'il y a énormément de textes. Donc, des coûts de traduction assez importants. C'est pour ça que nous, on l'a lancé déjà aussi qu'en français.
Tu peux pas utiliser Google, non?
Pas vraiment. Non, c'est quand même assez littéraire, donc la traduction doit être très bonne, très bien faite, quoi. Hein, comme on joue vraiment, des fois, on joue un peu sur le mot. Chaque mot est bien choisi. L'air de rien, ça peut être un indice, tu vois, des choses comme ça, plus les fausses pistes, ça. Donc ça doit être très bien traduit, quoi. Donc voilà.
Donc ça, c'était le Kickstarter. Là, le jeu arrive à peu près quand?
Donc si je reste général, je vais dire en été. Plus spécifiquement, pour l'instant, ce qui est prévu, mais il y a encore des petits aléas peut-être qui peuvent surgir.
Toujours des aléas.
A priori, ce serait vers fin juillet à peu près.
Donc cet été, ouais.
Ouais.
C'est vrai que c'est des jeux d'été, les jeux d'enquête où tu les emmènes et puis tu joues soit au camping, soit avec tes potes avec qui t'es parti en vacances.
En croisière.
Ouais. Ça, en espérant qu'il n'y ait pas la mise en abîme avec le meurtre dans le bateau. Du coup, ça, quand on passe au niveau national, là, tu es à des bretzels et des jeux, mais du coup, vu que c'est un...
Même international, puisque finalement, c'est donc les pays francophones, en fait. Hein,
mais du coup, au niveau de la promotion, tu as prévu d'aller à d'autres festivals ou... Parce que c'est aussi un coût.
Ouais. Le problème, c'est un peu ça. On est obligé de choisir. Donc là, on va sur Paris et Ludique dans, je crois que c'est 3 semaines. C'est ce qu'on a prévu cette année. Et Seine, on ne va pas encore le faire parce que, premièrement, jeu francophone.
Ouais.
On va attendre l'an prochain pour investir et Seine avec aussi d'autres jeux derrière. Qui seront soit déjà sortis, soit au niveau proto, et là des jeux plus facilement traduisibles localisables dans d'autres langues, quoi.
D'accord.
Mais voilà, donc pour cette année, on va pas encore à SN, mais on ira l'an prochain, on va aller à Cannes, prochain Cannes en février.
D'accord. Voilà. Et justement, est-ce que tu veux parler un peu de ce qui viendra après Minuit Meurtre en Mer, ou tu veux attendre un peu parce que c'est un peu tôt et qu'il y a déjà Minuit Meurtre en Mer?
En fait, il y a deux autres jeux qui sont toujours en testing en interne, qui sont déjà on va dire clos, enfin fini à peu près à 95%, hein, donc on est vraiment au bout.
Et qui sont prévus pour 2018 du coup.
Qui plaisent plutôt beaucoup, alors qu'ils ne sont pas prévus pour 2018, financement oblige, parce que ça va être un petit peu... En fait, ça prend très longtemps à la fois de le montrer en public, de le sortir, de commencer à le faire connaître, d'avoir encore des retours des gens, ensuite t'as tout le côté illustration, graphisme, avec les financements qui vont avec aussi. Ensuite, je pense qu'on va refaire une campagne de financement participatif. Donc, la préparation de la campagne, c'est pas mal de boulot aussi. La campagne en elle-même, c'est pas mal de boulot, beaucoup de boulot de com. Donc, je pense que je vais en sortir qu'un seul en 98. Alors, j'ai aussi en projet peut-être le jeu.
En 2018, tu veux dire ? Parce que 98.
Le temps passe.
Tu peux le sortir en 98.
Le temps passe.
D'accord, donc en 2018.
En 2018, c'est vrai. Donc je me tâte encore aussi sur un troisième volume pour ma collection là, du jeu local dont on parlait, Alza Ludo.
D'accord.
A priori, ça devrait se faire, mais j'ai quelques hésitations. Donc, je suis pas sûr d'arriver à faire les deux, c'est pour ça.
D'accord.
Voilà, donc en principe, ça va être toujours pas le jeu que j'ai en annonce depuis quelques années sur notre site, qui est un jeu de stratégie à deux sur un thème médiéval, que là, pour le coup, on montre depuis des années déjà de temps en temps qu'on sort comme proto sur les salons, qui plaît beaucoup, mais qui est vraiment pour un public joueur expert. On va peut-être plutôt faire passer un autre jeu avant celui-là, qui sera un jeu de gestion de maison de disques.
D'accord, ok.
Voilà, donc un peu de gestion et puis pas mal de fun aussi, pas mal d'opportunisme, donc faire des bons choix au bon moment.
Signer le bon artiste.
Pardon ?
Signer le bon artiste.
Signer le bon artiste, la bonne chanson, et en fait on évolue dans le temps depuis les années 60 à nos jours, donc t'as des choses qui sont un petit peu en vogue à une certaine période.
Internationale. Ça marche. Ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Je peux rajouter déjà qu'on te remercie pour ton travail,
écoute, de
nous avoir accueillis.
De rien.
Et puis qu'on a toujours très grand plaisir aussi à être en public, à voir le relationnel avec les gens.
Là, ça se passe bien le festival pour l'instant, ouais.
Oui, ce festival-ci,
puis tout ce qu'on a déjà fait, etc.
Ouais, en plus, hier, c'est vrai qu'on a eu un peu de flotte, c'était un peu dommage. Bon, on a quand même eu du monde, on n'a pas arrêté.
Et puis les tentes sont solides.
Mais là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être assez blindé au niveau monde.
Okay.
Et qu'on va passer une très bonne journée, les visiteurs comme nous, quoi.
Ça marche. Bah, je te remercie de ta participation et je te dis à une prochaine. Salut.
Salut, Flavien.